La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Comme vous le savez, nous avons à la disposition de l'émission un fonds d'archives sonores plutôt important, mais le fonds d'archives sonores n'est jamais figé. Il suppose aussi qu'il soit de temps en temps enrichi.
Il y a des choses dont on a entendu parler, puis on s'est dit, tiens, il faudra qu'on les trouve. Eh bien, aujourd'hui, on va vous donner le résultat de nos recherches. Ce sont des choses bien rares.
À côté du catalogue de ce que nous avons, nous entretenons une liste cachée de ce que nous cherchons. Donc.
Secrète.
Secrète. Comme quand on cherche, il arrive qu'on trouve, nous avons trouvé pas mal de choses et nous allons en faire quelques émissions à votre attention. Il s'agit vraiment de raretés, quelquefois piochées jusqu'en Amérique même, c'est vous dire. Et pour aujourd'hui, voici un premier lot d'échantillons musicaux glanés ici, là et même parfois ailleurs. Alors, comme il fallait mettre un peu d'ordre là-dedans, nous allons commencer par du piano. Et voici un pianiste témoin de l'âge du ragtime.
D'autant qu'on l'appelle Charles Thompson le Vieux.
Oui, le Vieux, parce qu'il y a eu un autre Charles Thompson, surnommé Sir Charles, qui était d'une toute autre génération, qui était également pianiste et organiste d'ailleurs. Charles Thompson le Vieux, on l'appelait aussi, parce qu'il était pas mal oublié, The Neglected Professor. Le professeur négligé. À tort. Et de cette recherche-là, nous avons d'ailleurs extrait un morceau il y a quelques semaines pour une émission sur le ragtime. Mais là, nous ne résistons pas à vous faire entendre un St. Louis Blues assez particulier.
Oui, c'est un témoignage de la manière dont on jouait St. Louis Blues à l'époque
où il a été composé. Et ça remonte vieux puisqu'on était avant 14. Ce que nous venons de passer a été enregistré sur le vif, sans doute dans un café ou quelque chose comme ça. Et c'est un vrai miracle parce que quelqu'un a eu l'idée, mais qu'est donc devenu ce vieux Charles Thompson ? On a fini par le remettre la main dessus. Il jouait dans un café, on a porté de quoi l'enregistrer, mais enfin, on aurait aussi bien pu ne jamais en entendre parler. Et le jazz est plein de petits miracles de ce genre-là. Et voici un autre pianiste qui s'appelle
Lucky Roberts, c'est-à-dire Lucky Robert. Lui, il a commencé, c'est un enfant de la balle. Il a commencé très jeune dans une sorte de cirque où il était jongleur. Et il a commencé vraiment si jeune que plus tard, adulte, on a remarqué qu'il avait des mains immenses, très très longues et développées. Et quand on est enfant jongleur, ça n'a rien d'étonnant.
Et en plus, il était enfant acrobate.
Oui, en plus.
Alors il a fini par être attiré par le piano et puis à l'apprendre un petit peu sur le tas, comme ça. Et il s'est mis au ragtime, il est venu à New York, et puis il a été un des premiers transmetteurs de cette musique qui, de ragtime, est devenue la musique des pianistes de Harlem, la musique stride. Là, nous avons un morceau que nous avons déniché et qui s'appelle...
Shy and Sly.
Ce qui veut dire...
Petite onomatopée, pratiquement, pour dire timide et rusé. Oh là là, voilà. Ça ne doit pas être commode, hein, timide et rusé.
Ah ben je connais des comme ça, oui. Si, timide et rusé, voilà. Du type, je suis timide, mais je me soigne en douce. Lucky Roberts. Ce qu'on vient d'entendre là, c'est naturellement le Lucky Roberts côté ragtime. Et comme nous disions que le ragtime a mené au stride, voici maintenant du stride avec un représentant de la deuxième génération de pianistes de ce style.
Qui est un élève du Lion.
Il s'appelait Ralph Sutton. Alors le hasard veut que nous ayons connu et le maître et l'élève, puisque le maître, on en a parlé souvent dans cette émission, qui est un personnage extraordinaire. Et l'élève, nous l'avons connu dans un festival fin des années 80. Et c'était également un très grand pianiste.
Vous voyez, Ralph Sutton, il n'est pas tellement connu. Et pourtant, c'est un très grand pianiste. On peut être un pianiste remarquable et n'avoir pas une notoriété incroyable.
C'est vrai. Quoique quand même dans le milieu du jazz lui-même, c'était un personnage connu et très respecté. Il y a la preuve, c'est quand même qu'on l'a fait venir dans des festivals européens depuis l'Amérique. Hein, c'était... Et puis alors, il avait quelque chose d'extraordinairement modeste dans son comportement général. C'était un type, comment dire, je dirais affable. Voilà. Mais alors au piano, c'était autre chose quand même. Voici un morceau qui s'appelle...
Bees Knees,
ce sont les genoux de l'abeille. C'est assez étonnant, mais c'est un terme argotique qui désigne quelque chose de particulièrement bien.
Excellent, n'est-ce pas? Et quel batteur?
Il y a là un très bon batteur. Il s'appelait George Wetling. Alors, c'est un musicien qui avait comme particularité de venir du groupe de jeunes blancs fanatiques de jazz qui s'était spontanément créé à Chicago dans les années 20. C'est-à-dire les types qui couraient, King Oliver, Jimmy Noon, Johnny Dodds, qui en se mettaient plein les oreilles et qui se sont mis à faire de la musique à cause de ça. Et George Wetling a été un très bon batteur représentant de cette mouvance-là.
C'est très intéressant là ce que tu dis, parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais Ralph Sutton, il était blanc, et Don Ewell, dont nous allons parler maintenant, pianiste, lui, c'était quelqu'un qui n'était pas de la Nouvelle-Orléans. Il a été habité à la Nouvelle-Orléans, il était blanc, il a décidé d'aller vivre dans les quartiers noirs, ce qui est quand même assez rare. Pourquoi ? Parce que c'était des fous de jazz et ils voulaient s'imprégner et ils sont devenus de culture noire.
Oui, car le jazz, qui est une invention des Noirs, c'est pas du tout une question de couleur de peau, c'est une question de culture.
Absolument.
On ne le dira jamais assez. Hein, et donc le rôle de Don Ewell dans la musique de jazz la deuxième grande époque de Nouvelle-Orléans, est important parce que c'était un très bon musicien et qui s'est beaucoup dépensé pour cette musique.
C'est un peu le cas des convertis qui sont beaucoup plus actifs parfois que ceux qui ont toujours connu la chose.
C'est l'ardeur de néophyte, bien voilà. Connu. Et là, on le retrouve d'ailleurs dans la même formule piano et batterie avec un des plus grands batteurs de la Nouvelle-Orléans, qui lui était noir, le fameux Warren Dodds, surnommé Baby Dodds parce que c'était le petit frère du clarinettiste Johnny Dodds. Et ce Baby Dodds est un fabuleux batteur et il a vraiment boosté le pianiste d'une manière tout à fait remarquable dans ce morceau qui, en souvenir de quelques escapades sur la côte est, s'appelle
Manhattan Stomp. Et avant de vous le faire entendre, je voudrais vous dire quelque chose d'assez émouvant. Cet homme qui n'était pas un fanat des tournées, hein, il était plutôt paisible dans le genre, il a décidé de faire des tournées parce que sa fille a eu un cancer, qu'en Amérique, les soins sont d'un prix absolument faramineux.
Et il était encore bien pire avant.
Et il a décidé donc de faire toutes ses tournées pour payer les soins, pour sauver sa fille. Voici Manhattan Stomp. Maintenant, on change complètement d'horizon, puisqu'on va vous parler d'un saxoténor de Harlem, Eddie Davis. Il a un surnom assez amusant, celui-là. On l'appelle Lockjaw. Ça veut dire mâchoire d'acier.
On peut le traduire comme ça, oui. Tout à fait. Et ça, c'est dû à la puissance de la pince. Tu sais, quand on joue du saxo, il y a la pince. Et selon qu'on est capable ou pas musculairement de pincer, les becs sont plus ou moins durs et les hanches plus ou moins dures. Enfin, ce petit aparté technique.
Pour vous expliquer,
que Lockjaw pouvait jouer avec des bec et des hanches très dures, ce qui favorisait son jeu et son son, la qualité de son son. Eddie Davis, c'est un saxophoniste ténor très marqué par l'orchestre de Bézi, auquel il a appartenu à plusieurs reprises. D'ailleurs, on l'a vu jouer plusieurs fois lorsqu'il était chez Count Basie. Mais c'est un ténor puissant. C'est un fort, hein. C'est un fort, voilà, c'est un fort. Les saxophonistes du Texas sont comme ça également, mais lui, il est né à Harlem. Alors, nous sommes donc en plein Harlem, y compris quant au titre du morceau.
Leaping on Lennox, ce qui veut dire sauter, bondir dans Lennox, Lennox Avenue, qui est une rue de Harlem.
Eh bien, Lennox Avenue, c'est même le nom que prend la 6e avenue, qui est coupée par Central Park. Quand elle reprend derrière Central Park, au nord, on entre dans Harlem par cette très très large avenue. C'est une avenue très large. Au départ, c'est un bienfaiteur, hein, c'est un personnage, Monsieur Lennox. Mais le nom de Lennox et de Lennox Avenue, ça a donné lieu à beaucoup de morceaux de jazz, car c'est tout à fait emblématique de Harlem. Là, Eddie Davis s'est accompagné par un organiste qui a eu son heure de gloire et qui s'appelait Doc Bagby, et puis par un excellent batteur. Alors, bondissons sur Lennox. Après ces quelques introuvables, puisque notre émission d'aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, est consacrée aux plages introuvables.
Oui, quand on dit plage, hein, c'est pas là où il y a les palmiers. Hein. C'est plage musicale, c'est-à-dire les petits morceaux introuvables.
Eh oui, et comme sur les micro-sillons 78 tours, c'était des surfaces plates et striées. À propos, savez-vous combien il y a de sillons sur une face de micro-sillon?
Question à 0 euros, mais si vous répondez, vous aurez toute notre estime.
Nous vous laissons réfléchir là-dessus. C'est un problème très intéressant. Et nous allons rester en Davis, puisque d'un Davis à l'autre, nous passons de Lenox Avenue aux petites rues dans lesquelles on trouve des mendiants. Et parmi ces mendiants, on va trouver...
Blind Gary Davis et Sonny Terry. Et alors, ces deux-là, on les a déjà passés dans d'autres émissions.
Oui, mais Sonny Terry était en équipe avec Brownie McGee.
C'est ça.
C'est le seul disque où on entend Blind Gary Davis accompagné par Sonny Terry et l'harmonica.
Alors c'est intéressant parce qu'effectivement ce sont des chanteurs de rue, ah, ou des musiciens de rue en l'occurrence.
On ne peut pas faire plus musicien de rue que ce Blind Gary Davis et son compère, même si plus tard, étant connus parce que remarqués, ils ont pu aller dans des studios ou même aller dans des tournées, des concerts. Mais fondamentalement.
C'est ça, fondamentalement, ils sont restés musiciens de rue. Et alors, non seulement musiciens de rue, mais leur répertoire était religieux.
Ah, Blind Gary Davis est un chanteur de gospel.
Si bien que ce que nous allons vous passer en est vraiment une illustration. Parce que le titre en est « Bad Company brought me here ». Ce qui veut dire « Mes mauvaises fréquentations m'ont amené là ».
Quand on pense aux chanteurs de rue, il faut aussi se souvenir qu'il y en a encore, avec des répertoires comme ça. Si vous allez à la Nouvelle-Orléans, par exemple, vous en rencontrerez. Et là-bas, le tube des tubes des chanteurs de rue, de gospel, ça reste « Amazing Grace ».
Très connu.
Évidemment, très connu. Mais enfin, ce n'est pas ce morceau-là qu'on passe maintenant, c'est les mauvaises fréquentations.
This is the song that this boy sang when he was on his way to the chair to die. There was a time that a body would tell the truth and would talk plain for himself. It's the time when he was making his last go round. He got out on his knees and he prayed a prayer before he entered into the room to the chair to die. He began to sing the song, Bad Company Brought Me Here. It is sad, hurt to my heart, day around about 11 o'clock. All my veins are going to stop. And they come in and they say, they go screw the death cap on my head. Well, how bad company brought me here. Bad company children. Bad company children. Bad company brought me here. And he brought in and woke him from his sleep. And the poor boy's heart full of sorrow. Till the poor boy could not eat. And he began to cry. And the poor boy passed his breakfast by. Today, need the word, I know it right. Now you stay home with your wife. Don't keep no late hours at night. For I'm telling you today, the very thing has led me astray. If I'd have listened to what my mother said, I'd have been home in my mother's bed. Since I passed my mother by, not today, Lord, I've got to die. bad company brought me here.
Du gospel de rue, on va passer au gospel d'église. Et le parcours de Mary Knight est tout à fait symptomatique. Toute petite, elle a commencé à chanter dans l'église où sa famille très pieuse allait régulièrement.
Elle avait 5 ans.
Ah, petit hein, quand même. Et puis, elle a continué, bien sûr.
On dit qu'elle est devenue soliste quand elle était ado.
Et la chance lui est arrivée. La chance de rencontrer deux personnes, deux femmes qui chantait aussi des gospels.
C'était les deux plus grandes. Hein.
La première, c'est Mahalia Jackson, qui lui a donné une chance incroyable. Le jour où elle a donné un concert, elle connaissait cette petite Mary Knight depuis l'enfance, et elle l'a fait tout simplement monter sur scène.
Oui, c'est quelque chose de rarissime pour Mahalia Jackson. Elle a fait monter sur scène, mais pas du tout pour la présenter au public. Elle lui a laissé la scène pour un morceau entier. Ça a dû être un moment assez étonnant. Et au même programme, il y avait Rosetta Tharpe. Quelle soirée !
Et Rosetta Tharpe a été tellement impressionnée par cette Mary Knight, eh bien qu'elle lui a demandé de faire des duos avec elle.
Et ça a très très bien marché. Et Mary Knight est devenue connue autrement que comme membre d'un groupe plus étoffé, parce qu'elle appartenait à plusieurs groupes où ils étaient 4 ou 6, tu vois. Et puis elle a fini par mener carrière elle-même, et elle a conservé les mêmes partenaires que ceux qu'avait Rosetta Tharpe, c'est-à-dire le trio du pianiste Sammy Price.
Mais il ne faut pas oublier qu'elle est toujours restée dans la religion ou la musique religieuse, puisqu'elle était pasteur.
Elle a fini par devenir pasteur.
Femme pasteur.
Comme Shirley César, dont nous avons vu une extraordinaire vidéo cassette il n'y a pas très longtemps. Il y a des femmes pasteurs. Il faut savoir que les pasteurs sont également des animateurs et souvent des chanteurs. Et donc, homme ou femme. Voici un morceau qui s'appelle
« What could I do ?»
où Mary Knight vous dit en quelque sorte « Mais qu'est-ce que je pouvais faire ?» Ben, on vous le demande.
What could I do? What could I do? What could I do? What could I do without the comfort of his word? What could I see? What could I say? How could I feel? How could I pray? What could I do if it was not Lord? Yes, he's my bread, my water, my life. Then he's my everything, and he helps me whatever the years may bring. Yes, he keeps me young, keeps me strong, keeps me right when I'm doing wrong. What could I do if it wasn't for the Lord? What could I do? What could I do? What could I do? What could I do? What could I do without the comfort of his word? Say, how could I feel? How could I pray? What could I do if it wasn't for the Lord? Yes, he's my mother, my father, my sister. Then he's my brother too, and he helps me when I don't know what to do. When my lights go out and my cloud get dim, friends move out, then my Jesus moves in. What could I do if it wasn't for the Lord?
Et voici une petite perle de rareté.
Ah oui, ça, pour être rare, c'est rare. Et c'est toujours Mary Knight.
Puisque Mary Knight, qui, comme on vous l'a dit tout à l'heure, ne chantait que du gospel, était en plus pasteur, un jour, elle s'est, je dirais pas laissée aller, elle s'est laissée persuader de chanter du blues. Il faut quand même savoir que Sister Rosetta Tharp s'est fait très violemment critiquer parce qu'elle chantait à la fois du gospel et du profane. Eh bien, Mary Knight, elle, un jour, elle a chanté du blues et du profane.
Oui, mais elle a profité traîtreusement d'une tournée en Europe pour que ça ne sache pas trop.
Et pas en Amérique.
Et en plus, il s'agit d'un enregistrement qui a été fait à Nottingham, exactement, dans le lobby d'un hôtel où concert a été organisé, parce qu'en Amérique, elle aurait eu beaucoup d'ennuis avec le milieu gospel, puisque, comme tu as très justement dit, Rosetta, qui est un peu sa mère spirituelle, avait eu beaucoup d'ennuis. Tu sais qu'elle a été mise en demeure de choisir, et qu'elle a choisi. Et Mahalia Jackson, elle-même, avait toujours refusé de chanter du profane.
La seule fois où elle l'a fait, c'est quand Ellington a créé exprès pour elle une partie, j'allais dire, religieuse dans
une de ses suites. Cette partie s'appelle Come Sunday, c'est-à-dire quand vient le dimanche. Et il a fallu qu'il lui téléphone presque tous les jours pendant un ou deux mois pour que finalement elle plie. Un machin extraordinaire. Come Sunday de Mahalia et Ellington, c'est une vraie merveille. Mais c'est la seule chose qu'elle ait faite hors du street gospel. Voici donc cette apparition inattendue dans le blues de Mary Knight, accompagnée par un trompettiste anglais remarquable, un très très bon musicien qui s'appelait Humphrey Littleton, et par son orchestre qui était tout à fait à la hauteur de la situation. Et ça s'appelle
My Man Is Gone. Mon alors, gars est parti.
Alors, pour une chanteuse de gospel réputée chanter une chose pareille, je vous dis pas.
Stop the train everywhere. Stop the plane in the air. Stop this tune in my ear. My man is gone. Stop the river where it flows. Stop the wind where it blows. I've got misery, pain and woe. My man is gone. He is every part of me in the very heart of me. But now he's gone from the sight of me. Oh, stop him or do away. Stop the moon. Oh, I'll go crazy soon. Stop this band. Stop this tune. My man is gone. He every part of me in, and the very heart of me. But now he's gone from the side of me. Oh, stop him or do away with me. Stop the sun. Stop the moon, or I'll go crazy.
Sandy Sue. Stop this band, stop this tune. My man, he's gone.
Alors là maintenant, c'est une surprise. C'est le genre de choses qui étaient enregistrées comme ça, je veux pas dire à la sauvette, mais un peu à la va-vite, et puis qui a été oublié sur une étagère pendant des dizaines d'années, peut-être. Ça arrive quelquefois. Retrouvé, et puis publié, et puis dedans, on trouve des choses formidables.
C'était tout simple. Il y avait peu ou pas d'arrangements. C'était nature.
Oui, vraiment, les arrangements, ils sont d'une très grande simplicité. Ça, faut dire. Et les deux solistes sont deux saxophonistes, aussi fameux l'un que l'autre, l'alto Johnny Hodges et le ténor Ben Webster. Tous deux d'ailleurs Ellingtoniens, en tout cas s'étant côtoyés chez Ellington pendant un certain temps, et s'étant retrouvés pour une soirée dans une boîte de San Francisco. Et puis à San Francisco, quelqu'un a dit « Oh mais il faudra enregistrer ces gens-là, mais dans la boîte il y a du public, il y a le barman, il y a la machine, ça fait du bruit, on va les prendre l'après-midi sans public. » Alors évidemment, pas beaucoup de temps disponible, hein, parce que quand ça ouvre en Amérique, ça rigole pas avec les horaires. Hein. Donc, ils ont été, comme tu disais tout à l'heure, direct. Voilà. Mais il y a quand même des arrangements, c'est une petite tonalité hodgienne, et certains arrangements sont dus, m'a-t-on dit, à la plume de Jimmy Hamilton. De cette publication, tout à fait inattendu, nous extrayons un morceau qui s'appelle
Big Ears, ce qui veut dire les grandes oreilles. Alors, ouvrez bien grandes vos oreilles.
Tout à l'heure, nous avons entendu un St. Louis Blues. Eh bien, nous allons maintenant aller à Saint-Louis.
Contrairement à ce que son nom peut évoquer, c'est-à-dire un nom français, Saint-Louis, Saint-Louis, c'est pas la Nouvelle-Orléans.
Ah, pas du tout, c'est très loin même, c'est beaucoup plus au nord.
C'est sur le Mississippi, on est d'accord. On remonte vers le nord. À gauche, il y a...
Eh bien, à gauche, venant de l'ouest, il y a le Missouri, qui vient de Kansas City. Et en continuant le Mississippi, on finit par arriver à Devonport, qui n'est pas très loin de Chicago par le train. Donc, tous les itinéraires de remontée du sud vers le nord, depuis la Louisiane jusqu'à Chicago, itinéraires des musiciens, sont passés par Saint-Louis.
Et ça s'explique aisément, puisque les musiciens pouvaient, non seulement sans bourse délier, mais en plus, en étant payé, remonter en jouant sur ces fameux riverboats.
Ah ben c'est comme ça que beaucoup de musiciens de la Nouvelle-Orléans se sont fait la main avec des gens plus exigeants, parce qu'il fallait jouer un peu de tout. Et d'ailleurs, c'est sur un riverboat que, vers l'âge de 20 ans, dans le fameux orchestre de Fat Marable, qui était un orchestre de riverboat, qui avait embauché Armstrong pour une saison, et c'est là qu'il a appris à lire la musique.
Oui.
Ça lui a pas énormément servi, mais c'est là qu'il a appris.
Il savait.
Il savait. Et à Saint-Louis, donc, important carrefour, il s'est créé tout un milieu de jazz qui est typiquement de Saint-Louis. Il y a une école de trompette de Saint-Louis, par exemple, et des gens qui y sont restés toute leur carrière. Et un exemple que nous allons entendre est un trompettiste qui s'appelle...
DeWitt Jackson.
DeWitt Jackson, c'est un homme de Saint-Louis, et donc il a... toujours eu des formations sur place. Et là, nous allons l'entendre dans un concert avec un petit orchestre formé exprès pour ce concert, d'après ce qu'on peut entendre comme musique, et où le pianiste n'est autre que...
Don Ewell.
Que nous avons tout à l'heure entendu en solo. On peut imaginer, pour plaisanter, que Don Ewell, dans sa recherche d'authenticité qui le menait à la Nouvelle-Orléans, où il a fini par s'installer, est passé, lui aussi, par Saint-Louis. Voilà, au moins le temps d'un concert, et de ce concert avec DeWitt Jackson à la trompette, nous extrayons un grand classique tiré au départ d'une sonnerie militaire et qui s'appelle « Bugle Call Rag ».
Thank you.
là, c'était vraiment une rareté et même une curiosité. Moi, j'ai vu passer ce truc-là, donc j'ai vu Dewey Jackson, je l'ai acheté. C'est très intéressant parce que c'est vraiment le Concerino Piné type avec le programme fait sur la nappe du restaurant avant.
À la limite de l'improvisation totale.
Enregistré à la sauvette avec un piano douteux et avec, comme vous avez pu le constater, une bande magnétique trop courte pour aller jusqu'au bout du dernier morceau. Voilà, bon, c'était...
Mais ça faisait partie des raretés, vous voyez.
Ben oui, voilà. C'était le gag de cette semaine. Et maintenant, nous passons à la suite. Et la suite, c'est un jeune homme plein d'avenir à l'époque du disque en question et qui a confirmé d'ailleurs tout son potentiel par la suite. Ce jeune homme, c'était Bob Wilber.
Bob Wilber, c'est un élève de Béchette. Et là, il y a la présence du maître.
Oui, figurez-vous que Bob Wilber était tellement fou de la musique de Béchette que sa maman a fini par l'emmener chez le maître pour prendre quelques leçons. Et donc devenu son disciple. D'ailleurs, je crois que c'est le seul, hein, parce que Béchet avait très mauvais caractère.
C'était pas facile d'être l'élève de Béchet.
Je pense. Et puis, comme l'élève était doué, il a fini par monter un orchestre, par enregistrer, par avoir du succès. Et un jour, à une séance d'enregistrement, il a invité son maître à partager quelques morceaux avec lui. Faut dire que pour l'orchestre, il s'était pas mouché du pied. Il y avait quand même des cadors. Et alors, il faut encore souligner, Bob Wilber est un homme blanc et tout l'orchestre sont des gens noirs. C'est encore un qui est allé s'intégrer musicalement, culturellement, complètement dans un autre milieu que son milieu d'origine. Et voici donc Béchet débarquant chez Wilber et c'est un bon moment qui vaut la peine d'être vécu et ça s'appelle
Without a Home. J'ai pas de maison.
J'ai pas de maison, voilà. C'est un morceau sans logis. Et maintenant, pour terminer cette émission, nous allons descendre dans les rues de la Nouvelle-Orléans pour faire parade.
Là, ce sont des stars locales. C'est vous dire qu'elles ne sont peut-être pas vraiment très connues. Hein.
Non, mais Elles appartiennent souvent à des familles qui sont dans la musique depuis la fin du 19e siècle. Tu sais qu'on a un annuaire des musiciens de la Nouvelle-Orléans aux environs 1900-1910, et que là, il y a quelque chose comme 250 personnes, et on trouve des familles. Et là, quand on voit passer Wendell Brunius, qui d'ailleurs est venu en Europe à plusieurs reprises, le trompettiste, lui qui mène cet orchestre, quand on voit Fred Lonzo, tromboniste, qui est également venu en Europe, quand on voit le nom de Waldren Frog Joseph, on se dit quand même, on est à la Nouvelle-Orléans. Puis alors, on se dit, mais où est le Barbarin? Parce qu'à Nouvelle-Orléans, il y a une famille Barbarin, il y a plein de Barbarins. Les Barbarins sont à la musique Nouvelle-Orléans, ce que les Marouani étaient au showbiz français. Eh bien, celui qui tient la grosse caisse et les cymbales, c'est un Barbarin.
Fallait pas l'oublier, celui-là.
Ah ben non, il s'appelle ni Louis, ni Pierre, ni Lucien, hein, il s'appelle Charles Barbarin. C'est la seule fois que je l'ai entendu de ma vie. Mais il tient la grosse caisse avec une figure exemplaire.
Et naturellement, tout ceci se passe dans le titre Bourbon Street Parade. Et n'oublions pas que Bourbon, en réalité, c'est Bourbon. Hein, c'est français. Hein.
Ah oui, d'ailleurs, la plaque de la rue était bilingue. Hein. Bourbon Street, et en dessous, il y a marqué rue Bourbon. Et le Bourbon en question, ce n'est pas le dérivé de whisky que nous connaissons. C'est Bourbon, Bourbon, les vrais, ceux qui avaient du nez, tu sais, le nez bourbonien.
La famille royale.
Thank you.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.